m'appelle Olivier Hernandez, je suis astrophysicien et directeur du Planétarium de Montréal.
Dites-moi, Monsieur Hernandez, est-ce qu'on a confirmé que c'était une météorite?
Ah oui, on confirme que c'est une météorite, sans aucun doute. En fait, tant qu'on ne l'a pas retrouvée, techniquement, le hit sert pour dire qu'elle s'est tombée sur Terre. Donc, c'est un météore et quand il tombe sur Terre et qu'on le retrouve, on peut dire météorite. Mais on peut affirmer hors de tout doute que c'est sûr que ce caillou-là a atteint la Terre. La raison principale, c'est qu'on pense que la masse est environ 1 kilo à peu près. Et à cette vitesse-là et à cette masse-là, on est à peu près sûr de retrouver des échantillons quand on va les chercher. Donc la grande difficulté, c'est de savoir où chercher pour le moment et on essaye de calculer précisément et ce n'est pas facile.
Il existe un système de caméras qui permet de suivre la trajectoire, n'est-ce pas?
C'est ça. Donc, on fonctionne avec notre propre système de caméras qu'on a installé il y a à peu près 5 ans et qui a fini d'être installé parce que ça a pris du temps avec la pandémie et tout ça. Il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. C'est ce qu'on appelle le réseau Dôme pour détection et observation de météores. Et c'est un réseau de 11 caméras le long de la vallée du Saint-Laurent et chaque caméra est espacée de 100 km à peu près pour pouvoir, sous forme de triangle en fait, pour pouvoir faire de la triangulation lorsqu'on détecte un météore, un bolide qui passe au-dessus du ciel du Québec. Et le but, c'est de calculer correctement la trajectoire de ce météore pour pouvoir faire deux choses. La première, c'est calculer où il tombe le plus précisément possible. Et aussi, surtout, c'est ce qui nous intéresse le plus, savoir d'où il vient dans le système solaire, parce que ça peut avoir des impacts importants sur la façon dont le système solaire a évolué. Donc, on utilise ce système de caméras-là, puis on utilise aussi beaucoup les observations des gens qui sont faites à travers un site web qui s'appelle imo.net, qui est un site web mondial, en fait, où les gens, quand ils voient une météorite ou un phénomène lumineux, ils expliquent ils décrivent ce qu'ils ont vu et ils situent où ils étaient. Et puis ça nous aide à, en tout cas, pas affiner, mais à confirmer que nos caméras n'ont pas fait d'erreur. Et enfin, on utilise une troisième chose, c'est un deuxième réseau de caméras qui s'appelle le Global Meteor Network, qui est installé un petit peu partout sur la planète Terre. Mais au lieu d'avoir des caméras 360 comme nous on a, ce sont des caméras classiques, rectangulaires. Donc, il y en a beaucoup et elles ne regardent pas tout le ciel, elles regardent juste des petites parties du ciel. Et avec ça, on est capable d'affiner un peu plus la trajectoire de la météorite. Et ça aussi, ça prend du temps à calculer tout ça. Et enfin, je dirais, c'est pour pouvoir s'assurer de l'endroit où est tombée correctement la météorite. Il faut savoir qu'un météore, quand il va tomber sur la Terre, il a deux phases. Une première phase qu'on appelle la phase lumineuse, ce que l'on voit en fait, ce qui est spectaculaire et ce qu'on a vu mercredi soir. Mais quand sa vitesse diminue, le plasma qu'il crée autour de lui n'est plus créé du tout en fait, et disparaît. Et il entre dans ce qu'on appelle la phase sombre, donc à peu près à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Et cette phase sombre, ça veut dire qu'on n'est plus capable de le voir sur des caméras, mais pendant encore 20 kilomètres, il va tomber en chute libre. Et cette chute libre, elle dépend énormément, en fait, principalement des vents et des courants ascendants qui existent à l'endroit où elle tombe. Et un aussi gros caillou, même d'un kilo, peut être trimballé un peu comme une feuille morte. Et ça, c'est difficile à calculer pour pouvoir trouver le bon endroit où c'est tombé. Et actuellement, on est dans ces calculs-là pour essayer de voir quels étaient les vents les plus favorables et où est-ce que les modèles nous permettent de centraliser la chute. Alors, la première approximation qu'on peut faire, c'est qu'il est tombé entre Lac Brome et Bromont, mais pour le moment, on n'est pas encore capable de déterminer précisément, et quand je dis précisément, c'est vraiment sur à peu près 2-3 kilomètres, la zone où il est tombé.
Ça ne doit pas être évident de les retrouver. Maintenant, on en trouve combien par année?
Alors, depuis l'existence du réseau, parce que le réseau il existe au Québec et aussi en Europe, au Québec, on n'en a trouvé encore aucune, mais il est opérationnel simplement depuis 2 ans. Et puis, au total, on a eu 5 détections, dont 3 cette année. Et les 3 de cette année, on ne les a pas encore trouvées. Mais en Europe, ils en ont trouvé en France et 2 en Italie, 2 en Angleterre, 1 en Allemagne. Donc, on espère avoir le même succès, mais ça prend un peu de temps au début. Ça prend aussi du temps pour former les équipes à chercher correctement ce genre de cailloux-là. On fait des battues, on travaille avec des astronomes amateurs pour nous aider à couvrir des surfaces, notamment les astronomes amateurs du club d'astronomie de Sherbrooke. Et puis, on a des règles aussi au Canada qu'il n'y a pas en Europe, par exemple, la météorite, lorsqu'elle tombe, elle tombe dans un terrain et elle appartient au propriétaire du terrain. Ah. Donc, on encourage les gens, quand ils vont sur des terrains, d'abord à demander l'autorisation en fait au propriétaire, faut qu'il soit d'accord. On peut pas rentrer dans une propriété privée. Et s'il est d'accord et qu'on trouve quelque chose, il faut quand même lui préciser que la météorite lui appartient. Et l'autre règlement qu'on a au Canada, c'est que les météorites sont considérées comme des biens culturels. Et donc, on ne peut pas les vendre à l'étranger, par exemple, sans avoir obtenu une licence d'exportation d'un bien culturel, qui est très difficile à avoir. Donc, si on veut vendre sa météorite, on ne peut pas la mettre sur Marketplace. On va devoir on va devoir faire une demande d'exportation d'abord. Et ensuite, il faut, si on a un acheteur qui est étranger, il faut d'abord la proposer en priorité à des musées ou des centres de recherche qui vont l'acheter au prix du marché ou on peut en faire un don en fait. C'est ça. Donc les Canadiens ont priorité sur les météorites canadiennes en fait qui sont tombées et c'est pas évident de pouvoir la vendre à l'extérieur. Ça permet d'éviter toute une situation de marché sombre et de faire de l'argent avec ça. Et de rendre en fait au public ce morceau de patrimoine céleste, on va dire.
Ça peut valoir combien une météorite?
Alors ça dépend un peu du type de météorite. Il y a différents types de météorites qui existent. Des météorites bien classiques, des petits morceaux de fer en fait, qui sont beaucoup plus fréquents en fait. On va les trouver à quelques dollars, quelques dizaines de dollars le gramme. À des météorites de type, donc c'est à peu près ce qu'on imagine pour celle qui est tombée près de Lac Brome. Celle qui est tombée près de Lemieux à Drummondville le 24 juin dernier, on pense que c'est plus une météorite de type chondrite, c'est-à-dire avec un peu de fer, mais beaucoup plus de silicate, très friable, donc très fragile, donc difficile à retrouver. Et à ce moment-là, le prix augmente, on va se retrouver dans les 20 ou 30 dollars du gramme. Et enfin, il y a toutes les météorites exceptionnelles, je dirais, des morceaux de Lune, des morceaux de Mars qui tombent sur nous. Là. Et bien sûr, les morceaux de Lune coûtent beaucoup plus cher, mais le top, donc on peut arriver vers les 150, 200, voire 300 ou 400 dollars du gramme. Et quand on arrive vers les morceaux de Mars, ben on est tout de suite à peu près dans les 1000 dollars du gramme, de façon pour simplifier en fait les choses. Donc c'est la gradation. Les morceaux de Mars coûtent très cher, les météorites classiques coûtent moins cher, et les morceaux de Lune sont entre les deux à peu près, parce que c'est la rareté en fait des choses qui est importante. Mais il n'y a pas de bourse de météorites, hein, donc c'est quelque chose qui fluctue énormément. Et on a des belles pièces au planétarium, on a une collection avec des pièces qui coûtent dans les 60 à 80 000 dollars à peu près. On a une collection de 545 météorites, donc au total, c'est probablement une valeur d'un peu plus d'un million de dollars.
Autre question, la météorite arrive à une vitesse assez extraordinaire. Est-ce qu'elle peut s'enfoncer dans le sol lorsqu'elle arrive et qu'elle touche justement le sol terrestre?
Ben, en fait, tout dépend du morceau qui reste. Si ce sont des petits morceaux, parce que en fait, la météorite va rentrer et dépendamment du type de météorite et de sa forme, elle va être fragmentée par son passage dans l'atmosphère, tellement la pression est énorme. Elle va être fragmentée en plein de petits morceaux. Des fois, simplement, elle peut complètement être complètement volatilisée dans l'atmosphère parce que c'est une météorite très pierreuse on n'arrivera jamais à retrouver des morceaux parce qu'il n'y en a jamais qui sont arrivés sur Terre. Quand c'est des morceaux qui contiennent beaucoup plus de fer, il y a beaucoup plus de chances de survie à travers l'atmosphère. Et les morceaux vont être un petit peu plus gros, mais d'une façon générale, la majorité des morceaux en fait vont tomber en chute libre. Et la chute libre, en fait, à cause de la friction, de l'atmosphère, tout ça, n'impose pas des très très grandes vitesses et en tout cas pas des vitesses suffisantes pour des morceaux raisonnables, je dirais, de la taille d'une orange ou de la taille d'une balle de ping-pong pour faire un trou dans la terre. Donc elles vont rester à la surface sans faire vraiment de cratère. Par contre, si vraiment c'est beaucoup plus gros et qu'on a quelque chose qui dépasse le mètre ou quoi que ce soit, là c'est sûr que la masse va faire en sorte qu'on va créer un cratère au moment de l'impact météoritique. Et puis si c'est encore plus gros, ça peut causer beaucoup plus de dégâts. Mais c'est ça. Donc les dangers pour la population, ils sont pas non plus très très grands, parce que c'est dans toute l'histoire des chutes de météorites, on a, je pense, une seule fois une personne qui a dû être atteint à une jambe, mais qui a été légèrement blessée. Et on a une histoire, il y a à peu près 2 ans, en Alberta, d'une femme qui était dans sa chambre en train de dormir à l'étage et qui a entendu un gros bruit, s'est retournée dans son lit à chercher, voir ce qui se passait, s'est rien passé. Puis en fait, le lendemain matin, elle s'est aperçue qu'il y avait un trou dans son toit. Elle a cherché à savoir ce qui se passait, et puis elle a remarqué que dans son lit, il y avait une météorite. En fait, il y avait un caillou. Elle l'avait pas vu, tout simplement. Donc ça, c'est l'histoire où on est passé le plus proche, en fait, qu'il arrive quelque chose. Il y a une météorite qui s'appelle la météorite de Peekskill, dans les années 80, en fait, qui, elle, est tombée sur l'arrière, en fait, d'une auto, qu'on a une Chevrolet, en fait, et qui a abîmé l'arrière d'une auto. Mais c'est à peu près tout. Il y a des histoires, des légendes urbaines avec une météorite très sympathique qu'on appelle la météorite de Nakla, qui est le nom d'un chien, en fait, mais qui date des années 1900. Et son propriétaire dit que la météorite a frappé le chien et que le chien s'est complètement volatilisé. En tout cas, c'est vraiment très très comique, mais ce sont des légendes urbaines, en fait. Oui. On n'a pas de preuve de tout ça, et on n'a jamais rapporté de danger dû aux météorites, à part la disparition des dinosaures.
Effectivement. Si on retrouve une météorite, il y a des précautions à prendre.
Hein? Oui, alors effectivement, si on veut faire les choses correctement lorsqu'on ramasse une météorite, quand on cherche une météorite, il faut toujours s'équiper de gants et de gants en latex, et puis d'avoir un petit sac de type Ziploc, parce que on veut éviter de contaminer, en fait, de déposer des différents germes humains sur cette météorite. C'est pas pour se protéger nous-mêmes, c'est vraiment pour être sûr de pas contaminer la météorite, parce que notre objectif, c'est de pouvoir la faire analyser. Et parce qu'on pense que les météorites referment, en fait, les briques essentielles, en fait, à la vie, et que c'est grâce aux météorites que la vie a pu apparaître sur Terre. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin de continuer à analyser les météorites qui tombent, parce qu'aller les chercher dans l'espace, ça se fait, mais ça coûte cher et c'est pas évident. Donc on va plutôt aller les chercher directement là où elles tombent sur Terre. Et donc, il faut prendre toutes les précautions avec des gants, les prendre, les mettre dans un ziploc. Et puis, à ce moment-là, venir au planétarium, la porter, on pourra l'analyser sérieusement, en couper un petit morceau avec l'autorisation de la personne, et puis ensuite l'envoyer se faire analyser dans un laboratoire qui pourra nous révéler de quoi est faite la météorite exactement, et voir s'il n'y a pas les fameux acides aminés qu'on cherche. Qui sont une des preuves, quand même, une des briques essentielles à la vie, on va dire.
C'était entrevue avec le directeur du Planétarium de Montréal, Olivier Hernandez.